journal vous est présenté par Mathilde Cariou.
Bonjour à toutes et à tous. Le Portugal pourrait-il basculer à droite, voire à l'extrême droite? Après 8 ans de pouvoir socialiste, l'opposition est bien haute dans les sondages pour ses législatives. Nous serons à Porto dès le début de ce journal. Jour de vote en Italie, également élection régionale très scrutée après la première défaite du camp Meloni en Sardaigne. Nous irons au Caire, en Égypte, où le gouvernement cherche une issue à la crise économique. Et puis, anatomie d'une chute nommée 5 fois aux Oscars, Justine Triet en campagne, c'est un décryptage à retrouver en fin de journal. Jour de vote au Portugal. Les bureaux viennent d'ouvrir pour ces élections législatives. Alors, les socialistes sont au pouvoir depuis 8 ans, mais désormais la droite les devance dans les sondages. Quant à l'extrême droite du parti Chega, elle est donnée en forte hausse avec des intentions de vote 2 fois plus élevées qu'il y a 2 ans. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Envoyé spécial de Radio France à Porto. Cette progression de l'extrême droite, c'est l'un des grands enjeux du scrutin. Avec cette question, jusqu'à quel score pourrait-elle monter ?
Oui, est-ce qu'elle doublera son score ? Chega était à 7% lors des dernières législatives. Est-ce que ce sera plus ? Est-ce qu'ils seront surtout incontournables pour gouverner ? Le leader de l'alliance de centre-droit, donné en tête, a promis pendant la campagne que jamais, jamais, il ne s'allierait à Chega. Mais même ses militants doutent de cet engagement. Certains m'expliquaient lors des dernières actions de campagne qu'ils voyaient mal leur parti renoncer au pouvoir, le laisser aux socialistes en place, vous l'avez dit, depuis 8 ans, pour éviter une alliance avec l'extrême droite. Les dernières législatives, elles étaient il y a très peu de temps au Portugal, 2 ans seulement. Et si les habitants votent à nouveau aujourd'hui de manière anticipée, c'est parce que le Premier ministre António Costa a démissionné son gouvernement, des membres de son équipe étant mis en cause dans des affaires de corruption. Les socialistes ont été attaqués là-dessus durant cette campagne, mais ils sont restés optimistes jusqu'au bout. Oui, les sondages ne les donnent pas forcément gagnants, mais les sondages se sont déjà trompés. Il y a 2 ans, c'était juste et ils avaient finalement obtenu plus de 40% des suffrages, la majorité absolue au Parlement. L'autre enjeu important, c'est le niveau de l'abstention, plus de 40% lors des dernières législatives. Hier soir, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a appelé les habitants à ne pas délaisser les bureaux de vote.
Merci Julie Pietri, en direct de Porto avec les moyens techniques de Johanna Gabric. Ce dimanche, c'est le jour d'élection également en Italie, élection régionale dans les Abruzzes, dans le centre du pays. Semaine après le scrutin en Sardaigne qui a vu la première défaite de la majorité de Giorgia Meloni depuis son arrivée au pouvoir en 2022, cette élection prend de fait une toute autre ampleur, Bruno Duvic.
Depuis 2 semaines, la ville de Pescara et ses alentours sont devenus le centre politique de l'Italie. Une pléiade de ministres et de personnalités de l'opposition y ont défilé. Cela faisait longtemps qu'une élection n'avait pas réservé un tel suspense dans le pays. Le candidat de la majorité droite-extrême droite est un homme important, président sortant, vieux compagnon de route de Giorgia Meloni, premier représentant de son parti à avoir conquis une région. C'était il y a 5 ans, au début de l'ascension de Fratelli d'Italia. Or, sa reconduction n'est pas garanti et le scrutin de ce dimanche intervient après une défaite que la chef du gouvernement n'avait pas vu venir. À force d'enchaîner les victoires dans les scrutins locaux, la région Sardaigne, il y a 15 jours, semblait elle aussi promise à la coalition au pouvoir. Résultat, une campagne tardive, faite de divisions au sein de la majorité, face à une opposition unie et un revers. Ce dimanche, l'opposition est à nouveau unie. Un nouvel échec ne serait pas un drame pour Giorgia Meloni. Il ne préfigurerait pas le résultat des européennes, scrutin national aux enjeux différents. Mais ce serait un vrai signal d'alarme pour la première ministre que rien ne semblait pouvoir arrêter depuis 18 mois.
Et un week-end très politique en France également. Après le camp présidentiel, c'est au tour de Reconquête de lancer sa campagne électorale à 3 mois des élections européennes. La tête de liste Marion Maréchal sera aux côtés d'Éric Zemmour pour un meeting à Paris. Et puis à gauche, Raphaël Glucksmann, le candidat Place Publique soutenu par le Parti Socialiste, sera en campagne à Lyon, accompagné notamment de Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS. Nous réduisons les dépenses, pas les investissements. Déclaration du ministre de l'Industrie ce dimanche dans un entretien à la Tribune. Malgré les récentes annonces de coupes budgétaires d'environ 10 milliards d'euros dans les dépenses de l'État, Roland Lescure affirme que le plan France 2030 et ses 54 milliards ne seront pas touchés. février. Ce plan a été lancé il y a 2 ans pour soutenir la réindustrialisation et la décarbonation du pays. Et puis les prix dans les supermarchés pourraient encore augmenter de 2 à 3% cette année, selon le patron de Leclerc, cette fois dans les colonnes de Ouest France. Michel-Édouard Leclerc parie sur une inflation structurelle dans les prochaines années, avec une hausse des prix, dit-il, moins violente que ces 2 dernières années. Léger répit dans une crise économique en Égypte également. Le pays a reçu 35 milliards de dollars des Émirats Arabes Unis pour la location à long terme d'une partie de ses terres sur la côte méditerranéenne. 10 milliards sont déjà rentrés dans les caisses de l'État et en plus, à la demande du FMI, l'Égypte a récemment décidé de faire flotter sa monnaie au risque de voir de nouveau grimper l'inflation. Reportage au Caire avec Edouard Dropsy.
C'est l'heure des derniers achats, à quelques jours du début du Ramadan. Salé vend des tissus.
Même si la vie est chère, nous essayons de donner de la joie aux familles. Nous essayons aussi de baisser les prix.
Mouchira, elle, est à la recherche de lampes traditionnelles.
Bien sûr que tout est plus cher, c'est à cause de l'inflation. Tout est lié au dollar.
En 2 ans, l'inflation a augmenté de 40% en Égypte et le pays est en manque de devises étrangères. Alors que sa dette extérieure a atteint 160 milliards de dollars, un prêt émirati de 35 milliards de dollars est venu soulager le gouvernement. Mais cela risque de ne pas être suffisant, comme l'explique Mostafa Kamel El Sayed, professeur d'économie politique à l'Université du Caire.
Donc ça donne au gouvernement égyptien assez de devises pour confronter ces problèmes de service des dettes. Donc peut-être pour cette année, ça va mieux, mais quand même pour l'année prochaine, il faut trouver aussi des devises étrangères pour pouvoir payer le service des dettes.
Dans un pays où 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le FMI a demandé à l'Égypte de changer son mode de gouvernance.
Dans l'actualité également, cette manifestation à Tel Aviv hier pour réclamer le départ du gouvernement de Benjamin Netanyahou et un accord sur le retour des otages toujours détenus par le Hamas. Les négociations n'avancent pas autour de ce projet de trêve pour la période du Ramadan. Et puis le Premier ministre espagnol veut proposer au Parlement de voter en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Pedro Sanchez a précisé qu'il ferait cette proposition avant la fin de son mandat en 2027. C'est la seule façon, selon lui, pour que 2 États, Israël et la Palestine, puissent coexister en paix et en sécurité. Anatomie d'une chute pourrait-il remporter une précieuse statuette? Il est nommé 5 fois aux Oscars qui se déroulent ce soir à Los Angeles. Justine Triet est d'ailleurs la seule femme nommée dans la catégorie meilleur réalisateur. Anatomie d'une chute, c'est déjà 90 récompenses, dont 2 Golden Globes et 6 Césars. Mais toute cette reconnaissance, Aurore Richard, c'est surtout beaucoup de travail.
Depuis l'automne dernier et la sortie d'Anatomie d'une chute aux États-Unis, les projections, les cocktails, les rendez-vous se sont enchaînés à un rythme effréné pour l'équipe du film, dont la coproductrice Marie-Ange Luciani.
C'est comme une campagne électorale, c'est-à-dire c'est beaucoup de serrage de main, de small talk, ce qu'ils appellent des small talks, c'est-à-dire on se parle un petit peu 2 minutes du film et Justine passe comme ça de votant en votant.
Il y a près de 10 000 votants à séduire, et pas seulement aux États-Unis, précise David Thion, coproducteur de ce thriller judiciaire.
On a fait tout un travail en direction des votants européens, puisque le film était sorti à l'automne dans quasiment tous les pays européens dans lesquels il y a des votants aux Oscars. Et maintenant, selon les informations qu'on a, il y aurait quand même pas loin de 20% des votants aux Oscars qui sont situés sur le territoire européen. Il y en a beaucoup en Angleterre, il y en a aussi en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne.
C'est donc beaucoup de temps, d'énergie et d'argent investi, avec une campagne évaluée à 3 millions d'euros pour ces Oscars, loin des 20 à 30 millions d'euros de certains grands studios américains. L'objectif pour Marie-Ange Luciani, c'est d'amener ce film le plus loin possible.
Justine a donné beaucoup, beaucoup de sa personne. Ça fait quand même 8 mois qu'elle est sur le terrain. Elle a pris des cours d'anglais, elle s'est vraiment engagée pleinement dans ce travail-là, évidemment. Qu'on a envie à la fin d'en décrocher une de statuette, ce serait magnifique, ouais.
Et celle du meilleur scénario original est à portée de main. Anatomie d'une chute est l'un des favoris, selon les revues spécialisées.
La campagne des Oscars d'Anatomie d'une chute à retrouver dans la rubrique Info culturelle sur le site de France Culture. Et puis l'autre grand favori de la compétition, c'est bien sûr Oppenheimer, portrait signé Christopher Nolan. Plusieurs documents qui retracent l'histoire de la bombe atomique sont d'ailleurs mis aux enchères aux États-Unis pour une lettre signée de la main d'Oppenheimer comptée près de 4000 euros. Le temps ce matin est couvert sur une large partie du territoire avec un peu de soleil en bord de mer. Les températures sont comprises entre 4 et 13 degrés.